très bien que tout ce qu'il a fait va être défait en quelques jours par la nouvelle génération. Donc l'humilité est un trait constant du passage sur Terre de Charles Quint, du passage dans la politique de l'Europe, dans nos destins, etc.
Il va apprendre aussi, bien sûr, au cours de ses jeunes années, le protocole de la cour. C'est amusant, il y a des pages amusantes sur le fait qu'il faut se laver les mains avant, au vu de tout le monde, pour qu'on ait confiance, essayer s'essuyer la bouche avant de boire au même verre qu'un autre, ne pas s'essuyer à la nappe, mais avec un petit mouchoir de Venise, etc. Alors, il va apprendre, à la veille de sa majorité, l'essentiel, hein, c'est-à-dire penser plus loin et plus large que les autres, s'en tenir toujours à des idées fortes, ne jamais se lancer tête basse dans l'aventure, mais plutôt pousser l'adversaire à la faute, se servir des hommes selon leurs qualités, ne jamais croire aux promesses d'amitié. Ce qu'il distingue aussi, c'est le sens de l'honneur. Et donc le 5 janvier 1515, lors d'une cérémonie officielle au palais du Codenberg à Bruxelles, l'empereur Maximilien, son grand-père, émancipe Charles Quint. Il a 14 ou 15 ans. Pourquoi cette émancipation si tôt ?
Pourquoi cette émancipation si tôt ? D'abord parce que Maximilien se sentait malade. Et il ne va d'ailleurs pas survivre longtemps. Il va survivre 4 ans. Se sentait malade et il voulait surtout préparer Charles Quint à lui succéder à la tête de l'Empire. La succession, ce n'est pas dynastique, ça se fait par élection, par les grands électeurs. C'est une élection démocratique, si vous voulez, et ce n'est pas par le sang qu'on devient empereur. Donc il voulait le lancer. Il avait aussi besoin d'argent. Et il était conscient aussi que les peuples de la Belgique, des Pays-Bas, souhaitaient être gouvernés par quelqu'un né chez eux et pas par des princes, des représentants allemands ou autres de l'empereur. Donc il était temps de le mettre en piste.
Et au même moment, à peu près au même moment, le 25 janvier 1515, François Ier est sacré roi de France dans la cathédrale de Reims. François Ier qui sera le grand rival de Charles Quint, c'est un tout autre personnage. Ce n'est pas ce personnage humble que l'on voit en Charles Quint.
Non, tout à fait. Je lisais il y a quelques jours une biographie de François Ier due à Max Gallo.
Oui.
Et en parcourant les pages, on sent un monsieur qui dit toujours « moi le roi, c'est moi qui décide, machin, etc. » ce n'est pas le caractère de Charles Quint, dont quelqu'un d'autre a dit « c'était pas un génie, mais son génie était de savoir qu'il ne l'était pas et qu'il savait s'entourer de conseillers du premier ordre. Il a eu des conseillers exceptionnels. »
C'est un personnage effectivement qui fait polémique ces derniers mois en France. François Ier était-il, oui ou non, ce grand roi?
Oui.
Alors en tous les cas, ils vont se livrer 4 guerres, je pense. Mais Charles Quint va lui tendre la main à plusieurs reprises à François Ier.
Va lui tendre la main après avoir voulu l'écraser et après avoir voulu démembrer le royaume de France en 2 ou 3 parties. Une partie pour les Anglais, une partie pour le roi de France qui resterait, et une partie pour le célèbre connétable de Bourbon, qui, après avoir été dépouillé de ses terres par François Ier, par la mère de François Ier, Louise de Savoie, passe dans le camp de Charles Quint. Ça, c'était le premier dessein de réduire la France à une portion plus congrue pour qu'elle soit moins dangereuse. Après la bataille de Pavie, qui est en 25, et où François Ier, au terme d'une cavalcade un peu folle, est pris prisonnier, Charles Quint change de politique. Il sauve la France, tout ce qu'il veut c'est la Bourgogne, et il petit à petit, il lancera la main à François Ier. Qui cependant, lui, ne l'acceptera pas de sitôt. Il faudra encore 4 guerres, comme vous le disiez, pour qu'il y arrive.
Le 14 mars 1516, lors d'une cérémonie dans la collégiale Sainte-Gudule à Bruxelles, Charles est proclamé avec sa mère, Jeanne la Folle, roi des Espagnes. 3 ans plus tard, c'est la mort de Maximilien, donc son grand-père, le 12 janvier 1519, qui ouvre la succession à la couronne impériale. Plusieurs candidats, Henri VIII, le roi d'Angleterre, le duc de Saxe et bien sûr François Ier. C'est Charles qui est choisi, qui est sacré empereur à Aix-la-Chapelle en octobre 1520, il a 20 ans. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi on le choisit, lui?
Pourquoi on a choisi Charles Quint? Bon, semblait-il, la raison essentielle est que c'est celui qui a payé le plus d'argent. Et deuxièmement, parce qu'il était financé par les banquiers allemands. Il était financé par les banquiers allemands parce que la France faisait peur, pour les mêmes raisons qu'on disait tout à l'heure. Et donc, il avait aussi un petit, je ne sais pas si c'est un huitième ou quart de sang allemand. Donc bon, ça aussi va peut-être jouer. Mais c'est surtout l'argent. Et son grand-père lui avait écrit « Charles, sache qu'on n'arrive à rien si on dépense mais pas beaucoup d'argent dans la poche des gens. »
Et vous rappelez à Lindsay Armstrong que Charles Quint n'était pas le candidat de Rome et d'ailleurs aucun des six papes auxquels il aura affaire durant son règne ne l'épaulera tout au long des 35 ans de règne.
Il y avait enfin le duel judiciaire. On y recourait surtout pour attaquer les serments. Oh, que je n'aime pas ça, que je n'aime pas ça. Lorsque les deux gentilshommes avaient accepté le jugement de Dieu, il s'ensuivait un duel sans merci où le vaincu, s'il était déjà mort, subissait la peine des capitaines. C'est la fromagerie, ça.
Tous les jours, 13h30, 14h30. Un jour dans l'histoire.
Voilà, une version plus souriante aussi. Hein. François Ier en 1937 avec Fernandel. Lindsay Armstrong est avec nous pour évoquer les jeunes années de Charles Quint. L'indomptable, c'est le titre de votre ouvrage, Lindsay Armstrong. Il sera donc le premier et le dernier empereur des deux mondes, hein, puisqu'il a l'annexion à la couronne des conquêtes de vastes territoires qui couvrent aujourd'hui le Mexique, l'Amérique centrale, le sud-est des États-Unis. Il va essayer d'imposer à l'Europe et au-delà une unité religieuse, une monarchie universelle chrétienne. Charles Quint est le défenseur d'une église rénovée dans ses mœurs et pourtant, et c'est assez paradoxal, c'est qu'il va, en même temps, il est pour une église rénovée et il va s'affronter à Luther, Martin Luther, qui va être, comme François Ier, une sorte de clou dans les chaussures de Charles Quint.
Tout le monde a un clou. Ouais. Les papes que vous signaliez tout à l'heure, Luther et surtout les princes protestants, Soliman les Magnifiques, ouais. François Ier. Donc, on assiste à une alliance hétérogène et illogique entre un roi catholique, le très chrétien, on l'appelait, les protestants, les papes et les ottomans, tous contre Charles Quint. Alors, il y a là une belle question. Pourquoi ils sont tous contre Charles Quint? C'est que c'est un grand homme qui les éclipse tous. C'est ma vision des choses. Mais peut-être on peut approfondir ça.
Mais il y aura quand même la... Par exemple, Martin Luther, est-ce qu'il a cette vision de Charles Quint? Est-ce qu'il se dit « je dois m'affronter à Charles Quint puisque c'est un grand homme » Ils vont se rencontrer. Hein.
Ils se rencontrent une fois seulement, ouais. Qui est à la première diète que préside le nouvel empereur Charles Quint, qui a lieu à Worms et qui a été un événement majeur, puisque Charles Quint invite Luther avec un sauf-conduit qui respecte scrupuleusement à se défendre, à présenter ses thèses, et où la rupture, disons, idéologique, religieuse entre Charles Quint et Luther se consomme. Cela étant dit, Luther a souvent dit des choses très positives sur l'empereur, surtout sur son rôle de défenseur de la chrétienté dans son ensemble, de sa lutte contre l'expansionnisme musulman, ottoman plutôt. C'est ambigu. Aussi, il faut voir que Luther, au début de son évangélisation, si vous voulez, il souhaite que se développent des communautés de croyants, protestants, si vous voulez. Ensuite, il y a beaucoup d'événements assez tragiques, la révolte des paysans, il y a des schismes qui se provoquent, qui ont lieu tout de suite dans le luthéranisme, et Luther passe la main au prince. Il est chef religieux et séculaire. Et donc, après les premières années, Charles Quint a surtout affaire avec les princes protestants. et beaucoup moins avec Lothaire, qui petit à petit se retire en fait de la scène politique.
Et toutes ces passions religieuses vont enflammer les Européens et diviser le continent. C'est un rêve d'Europe unie qui va se fracasser, hein, le rêve de Charles Quint. La maladie va le rattraper, une goutte très très invalidante. Il abdique le 22 octobre 1555 à Bruxelles, devant les États généraux, dans la grande salle du palais du Codenberg, là où 40 ans plus tôt il était proclamé duc de Bourgogne. Il se retire dans le monastère de Yuste, dans le sud-ouest de l'Espagne. Il va y mener pendant 3 ans la vie la plus triste qui ne se soit jamais vue, dit l'un de ses proches, Lindsay Armstrong. Pourquoi cette vie triste?
Alors, c'est l'un de ses proches qui le dit. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai pour, dans l'esprit de Charles Quint. Parce que Charles Quint, donc, se dépouille de tout, de tous ses honneurs, de toutes ses charges. Et il s'est dit, je suis vieux, je suis malade, je ne suis plus en mesure de servir. Et donc, il se retire. Il se retire dans une maison d'une extrême modestie. Hein. Il faut le souligner. Ce n'est pas quelqu'un qui dilapidait l'argent public.
Il a quand même 50 serviteurs autour de lui.
Oui, mais enfin, oui, parce qu'il aimait beaucoup la bouffe, comme vous savez. Et une des choses marrantes, c'est qu'il a amené avec lui à Yuste un brasseur flamand, par exemple. aussi pour son linge, il avait des préférences. Donc il était très méticuleux sur tous ces aspects domestiques de sa vie. Il s'est retiré à Yuste, c'est un bel endroit sur une vallée verte. Et par exemple, il s'adonne à la pêche. Est-ce que vous imaginez, vous, un empereur qui a commandé toute l'Europe, qui est là avec sa canne et qui attend d'attraper une truite? Eh bien, il y a là un trait merveilleux de cet homme qui est modeste, qui est réaliste parce qu'il sait qu'on va tout défaire, que tout passe. Ouais. Chaque génération renouvelle tout et croit tout renouveler. Et c'est très touchant. C'est un homme vraiment touchant.
Qui meurt à Yuste donc le 21 septembre 1558 à l'âge de 58 ans. Les suites de la malaria, c'est ça?
Il semblerait que oui. Ça, il a dû être piqué par un moustique qui n'a pas été identifié. Ouais. Si vous voulez.
En tous les cas, on peut approfondir et il faut approfondir la connaissance de Charles Quint. Nous, on s'est intéressé aux premières années de formation de ce monarque. Charles Quint, l'indomptable. Vous allez beaucoup plus loin encore, Lindsay Armstrong, dans cet ouvrage qui paraît chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.